Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023, il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants, et je vous imagine encore bien nombreux à écouter le Club La Presse sur Canal FM ou sur les antennes de nos médias partenaires. Et nous sommes au rendez-vous avec la table déjà garnie. Je vous les présente, Abbas Issaka de du Manya Libéré, Bavon Kazo. Alafia. Alafia. Je continue avec le directeur de Le Libéral, Biazma, Fabrice Paton Pétiezi.
Alafia, Loale.
Alafia. Afi Estelle Koudjonou de Gazelle Info qui est là aussi, Indilo.
Ndi ça c'est le foro.
Moforo, au téléphone là. Apoto au coup de Viore.
Amisha Mofo.
Et nous continuons sur la montagne Agou, le plus haut sommet du Togo, avec celui qui n'est pas Agouto, mais qui est quand même de là, notre confrère Gadiel Komla Tchonyadji. Bonjour. Kokou plutôt Tchonyadji. Indi.
Ça c'est bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Indi, Indi, à
Pomodoro. Au fond. Agoutore. Bon, il semble que ton micro a un petit souci. J'espère que le micro de Gadiel parle, hein, marche plutôt, parce que quand Gadiel parle, c'est son honorable neveu qui écoute quelque part. Thomas, Gadiel, Indi.
Indi, à quoi m'entend?
Olé.
Nichamodon.
Agoutore.
Agoutore, Agoutodi.
Eh bien, nous sommes au rendez-vous donc du Club La Presse. Avec une série de petites informations, mais très utiles, que vous publiez aujourd'hui. Nous allons faire l'effort d'en commenter un maximum. Mais commençons par la pensée du jour. Et la pensée que j'ai préparée, je la laisse plutôt pour me rappeler ce que nous savons très bien, Gadiel. Nous tous savons qu'un bienfait n'est jamais perdu. Une loi de la nature, mais qui peut nous revenir? Parce que je lis à la page 5 de Santé et Éducation que la générosité favorise l'estime de soi et le bonheur.
Oui, c'est une étude qui prouve cela. Vous savez, quand quelqu'un est généreux, il a plus d'estime pour soi. Et beaucoup de personnes, ceux avec qui il a exprimé sa générosité, le considèrent. Donc,
décidément, ce micro qui refuse de marcher, je te prie de te déplacer avec cette fois-ci la conviction que ça va marcher. J'espère que oui, Thomas.
Oui, ça va.
Eh bien, nous étions en train de décliner ce que nous savons tous, à savoir un bienfait qui n'est jamais perdu. Cet axiome qui se retrouve conforté par cet article de Santé Éducation à la page 5 intitulé « La générosité favorise l'estime de soi et le bonheur ».
Oui, la générosité, c'est une loi de la nature. Vous savez, on nous éduque à être généreux envers nos semblables. Et d'après plusieurs études, je veux dire, il est prouvé que ceux qui sont généreux ont l'estime pour soi et sont très considérés par ceux qui sont autour de ceux avec qui ils ont exprimé leur générosité. Donc, et au plus loin, des recherches ont prouvé que ceux qui sont généreux dans la vie vivent plus longtemps, ils sont plus joyeux, ils connaissent plus de bonheur, donc sont généreux.
C'est très important parce que l'article nous dit que la générosité et l'altruisme apparaissent grandement corrélés au bonheur et à l'estime de soi. Donner de soi pour la satisfaction de l'autre sans en attendre nécessairement un quelconque retour.
Absolument.
Générosité et bonheur améliorent le bien-être individuel et peuvent faciliter la réussite sociale. Fabrice, nous devrions considérer ce petit article avec grand intérêt.
Oui, bien évidemment. C'est un intérêt pour tout le monde par rapport à la question liée au bien-être. Je crois que c'est fondamental pour tout être humain. C'est un peu, je peux considérer ça comme la fondation pour pouvoir supporter d'autres situations de la vie.
Merci, c'est bon à savoir. Encore une fois, la générosité favorise l'estime de soi et le bonheur. Je me rappellerai toujours ce vieux prêtre espagnol qui aimait dire que ce qu'on garde pourrit alors que ce que l'on donne fleurit. Et il disait que personne n'est jamais trop pauvre pour ne pas offrir un cadeau et personne n'est jamais trop riche pour ne pas recevoir un cadeau. Gadiel, ça veut dire que tu peux offrir des cadeaux à ton grand-neveu.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
Il le recevra avec beaucoup de bonheur et t'en remerciera.
Tout à fait.
D'autant plus que ça te reviendra à toi-même.
Oui, c'est ça.
Mais avant ton neveu, moi aussi, je suis là.
Ok, on verra bien.
Merci. Nous continuons avec à la page 3, ce qui est même, plutôt à la page 6, ce qui est même le titre à la manchette de santé éducation. Les évêques l'appellent Coclochugbo, mais son nom scientifique, c'est l'Heliotropium indicum, que tu présentes comme une plante très utilisée dans la médecine traditionnelle. Cette plante qui contient des principes actifs doués de diverses propriétés médicinales pouvant intervenir dans le traitement de nombreuses maladies, dont par exemple l'hypertrophie de la prostate et les infections urinaires.
Oui, ça, vous savez, cette année, Santé Éducation va publier beaucoup d'articles concernant la santé selon nos connaissances en Afrique, selon nos pratiques. Et je pense qu'on va mieux comprendre l'essence même de la santé, pas forcément comme on présente cela aujourd'hui dans les systèmes de santé chez nous en Afrique. Les plantes médicinales sont un bien humanitaire que nous devons, bien de l'humanité que nous devons utiliser. Coclochugbo est une plante bien connue chez nous et très utilisée dans le domaine de la phytothérapie. Aujourd'hui, nous adressons à deux organes, les reins et la prostate. Mm-hmm. Plusieurs, aujourd'hui, les chiffres, on peut les mettre, on va plus en parler, mais on sait que les maladies rénales sont récurrentes. Le cancer de la prostate et la prostatite sont des maladies aujourd'hui très connues chez les hommes. Donc, il y a de quoi recourir aux plantes. Il y a deux recettes dans cet article. Une recette qui permet d'éviter les infections au niveau rénal et puis une recette à nous les hommes d'éviter la prostatite ou bien le cancer de la prostate.
Encore qu'il faut bien se conformer aux recettes telles que vous les recommandez.
C'est pourquoi il faut avoir le journal et voir les recettes et pouvoir les appliquer telles qu'elles sont écrites dans le journal.
Nous revenons à la page 2 avec l'harmattan qui continue à sévir. Il y a quelque temps, le ministère de la Santé alertait qu'il y avait des poches de poliomyélite au nord du Togo. Mais l'harmattan qui peut être également favorable à des maladies comme la bronchiolite. Et pour cela, Santé Éducation nous recommande de protéger le bébé contre la bronchiolite. C'est
oui,
la page 2.
La bronchiolite,
2.
Vous savez, c'est une infection virale chez l'enfant. Comme vous venez de le dire, pendant le harmattan, il y a cette maladie. Aujourd'hui, nous voyons les femmes modernes, les mamans d'aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à protéger les enfants comme on le faisait dans le temps. On peut voir dans la vie de l'homme des femmes séculaires avec des enfants, des nourrissons, la tête tout nue. Ce n'est pas bien, donc il faut protéger l'enfant. Et surtout, il y a des pratiques dans nos maisons. Quand un enfant naît, tous ceux qui viennent veulent toucher cet enfant, veulent lui faire bisous, donc ce n'est pas bon. Quand un enfant souffre de la bronchiolite, c'est qu'il peut faire la fièvre et il n'arrive pas à dormir, il pleure la nuit parce qu'il respire très mal, parce que le virus a atteint ses bronchioles, donc il n'arrive pas à respirer. Donc, c'est une pathologie qu'il faut aller directement, qu'il faut amener directement chez le pédiatre pour des soins. Donc, attention aux nouveaux parents, les virus chez les enfants, ça peut entamer leur santé.
Et s'il arrive que le papa, surtout la maman, lui ou elle-même est enrhumée?
Et là, il faut prendre des mesures, il faut aller voir un spécialiste pour des conseils, c'est absolument important. Voilà, de toutes les façons, quand le papa ou bien la maman, il y a il doit avoir forcément un moment d'isolement. Hein, voilà. En tout cas, le spécialiste va donner des conseils à ses parents-là hein, pour ne pas affecter la santé de l'enfant.
Nous passons à présent la page 3 avec le phénomène des fritures. On frit maintenant tout, hein, le colico, les beignets, les poissons, la viande. Reste même que les femmes se mettent à frire même de l'eau. Alors, après friture, faut-il conserver ou jeter l'huile qui a servi justement à frire?
Oui, ça, c'est la dernière fois qu'on a lu un rapport chez nous au bureau et on était vraiment un peu assommés parce que le rapport dit que la friture tue. La friture aujourd'hui constitue un problème de santé publique parce que il y a deux problèmes. D'abord, les huiles qui sont sur nos marchés ne sont pas des huiles de bonne qualité. La plupart des huiles ne doivent pas être brûlées, ne doivent pas être chauffées. Et puis, dans nos communautés, nous avons l'habitude d'utiliser une huile qui a servi à la friture, à la réutiliser.
Les femmes disent que c'est par souci d'économie.
Voilà, à en faire des assaisonnements, c'est un problème assez sérieux. Vous savez, une huile qui est surchauffée, qui a brûlé, qui a servi à faire des fritures, a déjà changé de teinture chimique. Donc, nous invitons tout le monde à lire cet article parce que nous faisons de la friture chez nous à la maison. Surtout les femmes, hein, à lire cet article pour voir comment elles peuvent faire la cuisine à la maison pour sauver, en tout cas pour protéger la santé de tout un chacun. Il y a le débat au niveau des restaurants de la rue. Hein. Toutes les fritures qu'on fait les soirs, personne ne sait de quelle huile ces femmes se servent pour faire ces fritures.
Pas seulement les femmes.
Oui, bon, la plupart, c'est les femmes. C'est ces femmes qui font la friture, les colis au bord de la route. Donc, le débat est là aujourd'hui. Il faut que le ministère de la Santé prenne sérieusement ce fait parce que le rapport est tout à fait sérieux. La friture tue aujourd'hui.
Donc, une huile qui a servi à frire devrait être jetée.
En tout cas, la réponse est dans l'article. Chacun doit lire pour prendre des décisions, absolument.
Merci. Nous allons terminer par cet article qui doit intéresser les dames, surtout les jeunes filles. L'article porte sur les serviettes hygiéniques et Santé Éducation recommande de les changer après 6 heures.
Oui, c'est la recommandation internationale qui est donnée aujourd'hui par rapport à l'utilisation des serviettes chez les femmes. Pour questions hygiéniques et questions de santé, pour éviter des infections, pour éviter des déconvenues au niveau de ces femmes, c'est absolument important de suivre cette règle-là. Et aujourd'hui, le conseil qu'on donne aux femmes, aux jeunes filles qui commencent par faire les menstruations, c'est de sortir et d'avoir des garnitures, mais ces serviettes en réserve dans leur sac. Pour s'échanger, c'est absolument important. En tout cas, dans cet article, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés aux femmes, aux jeunes filles qui font les menstruations. Comment utiliser les serviettes pour éviter les infections? Comment utiliser les serviettes pour éviter les déconvenues? Vous savez, c'est très mauvais qu'une femme se tâche pendant les règles au bureau ou bien dans la rue. Donc, tout cela, c'est important. Des conseils sérieux sont donnés dans cet article.
Merci à toi, Gadiel, à toute la rédaction de Santé Éducation. Mais je reviens vers la fille Estelle. Estelle, tu conviendras, comme l'écrit Santé Éducation, qu'une bonne hygiène menstruelle est capitale pour le bien-être et la santé de la dame.
Bien sûr, c'est assez important, surtout quand on est femme, de manière basique. Et tout être humain se doit d'être hygiénique, d'être propre. Mais quand on est encore femme, il y a des périodes spécifiques dans la vie de la femme qui nécessitent encore une attention particulière, comme les périodes menstrues. Et c'est important qu'on mette en pratique ces règles d'hygiène pour le bien-être de la femme elle-même en général.
Merci à toi, Gadiel. Mais tout reste à nos côtés. Tout le coup de 12 heures, les auditeurs vont entrer en ligne en composant le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Et si une question devait porter sur la santé, notamment santé éducation, tu vas être là toi-même pour nous répondre. pendant que nous nous réjouissons d'avoir accueilli depuis quelques instants Sylvestre Béni. Bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous.
Du journal La Manchette.
Effectivement.
Et c'est avec toi et les autres que nous continuons les autres sujets, notamment hein, le Togo qui est toujours face à son histoire. Hier, c'était le 24 janvier 2023, nous nous rappelions pour la 49e fois hein, l'accident d'avion du 24 janvier 1974, ce qui inspire le Mania Libéré, Abbas. Ton journal écrit 24 janvier 1974, 24 janvier 2023, 49 ans déjà, et à dément échappait à un accident déguisé en accident d'avion, c'était à Sarakawa.
Oui, c'était à Sarakawa, il y a de cela 49 ans. C'était vers 15h que l'avion présidentiel. 15h37. Que l'avion présidentiel qui transportait le chef de l'État et quelques personnalités. A eu un accident dans les accablures de Sarakawa. Quand ça s'est passé, on a vu l'histoire contée par le général Amei, alors préfet de la localité en ce moment.
On parlait de chef Sir à l'époque.
Chef Sir à l'époque, en 1974. Et il a décrit comment l'avion a quitté, a commencé par dandiner, et il a traité même le pilote d'être un fou. Il conduit d'une façon bizarre jusqu'à ce que l'avion est tombé. La manière dont le chef de l'État était sorti, et quand il a raconté ça, il disait, le chef de l'État était sorti pour demander qui vous êtes en train de chercher. Je suis là parmi vous. Et ils ont pris la Land Rover pour le conduire à Pia. En ce moment, nous, on était très grosses quand ça s'est passé. Nous étions en classe quand l'avion là était passé sur nos têtes. C'était
et tu étais en quelle classe à l'époque là?
Oh, CP2, je crois.
Oui.
Donc, c'est là, nous, on a pris ça, puisque c'est à 24 km de chez nous.
Oui.
Et après, on nous a dit que c'est l'avion là qui est passé, là, qui est allé tomber à Kara. Donc, après, nous avons suivi tout ce qui s'est passé. Et. Selon l'historique, c'est que le chef de l'État, comme les Blancs, les Français avaient pris CTMB, la compagnie minière du Bénin, il y avait le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, voulait transformer, créer l'OTP, Office Togolais des Phosphates. Et les gens, les Blancs le traitaient de concurrent, donc il fallait le liquider parce qu'il est en train de mettre du sable dans leur gari. Et c'est ça qui a été. Fait, nous avons retracé cette historique-là dans notre journal.
Une date très riche en histoire, en interprétation, en commentaires, dans tous les sens. Ça, on le fait depuis 49 ans, mais la commémoration qui a eu lieu hier, nous avons suivi comment le chef de l'État était allé en personne déposer sa gerbe au mausolée de Sarakawa et comment. Le général Yark l'a fait au nom du chef de l'État à Lomé ici, et qu'un peu partout dans les chefs lieux de préfecture et de région, ça a été rappelé pour dire que c'est une date qui a marqué l'histoire du Togo. Alors, au-delà des interprétations, d'autres confrères lient le 24 janvier au 13 janvier aux dates qui ont marqué les 38 ans du pouvoir de Feu Gnassingbé Adema. C'est ce que fait Liberté, par exemple, qui écrit « Célébration du 13 janvier, du 24 janvier, etc. La division toujours profonde au Togo, pendant que la manchette, lui, le journal, lui revient à la tragique disparition le 13 janvier 63 de Sylvanus Olympio, premier président du Togo. C'était le premier coup d'État en Afrique et Sylvestre la manchette, ton journal se pose la question, à quand la responsabilité, à quand la justice pour une vraie réconciliation au Togo?
Oui, je crois que ça se passe de tout commentaire et vous avez si bien fait donc de rallier ou de rapprocher donc les deux événements. L'accident de Sarakawa, moi je suis souvent prudent donc de dire attentat, puisque juste aujourd'hui personne n'a réussi à prouver que c'était véritablement un attentat. C'est vrai que Yadema, à l'époque, voulait nationaliser la CTMB. Il avait quand même des échos défavorables. Donc, il trouvait les moyens. Donc, l'opportunité donc, de cet accident lui avait quand même servi de réussir son agenda donc, en nationalisant le CTMB, la CTMB et tout. Mais cette date continue donc de diviser les Togolais. Et donc, moi, je crois que Yadema s'est peut-être servi hein, de cet accident-là pour... puisque l'accident lui divinisait, en fait, déifiait Yadema, puisque à l'époque, tout le monde croyait que c'est l'homme le plus pouvoireux du Togo. Donc, il a réussi donc, à avoir hein, cette ombre-là sur le Togo. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelle est encore l'utilité? Quelle est encore l'utilité donc, de la célébration donc, du 24 janvier, si on ne peut pas peut-être regarder dans le rétroviseur, voir des archivétaires et voir que d'autres personnes aussi sont tombées pour d'autres occasions et également les honorer ou commémorer cela. Cette date est gardée. Le 13 janvier, oui, des gens sont tombés. Il y a d'autres événements. Aujourd'hui, nous sommes au 25. Il y a d'autres qui sont tombés, donc au niveau jardin et tout. Mais on a juste gardé donc le 24 janvier hein, comme si c'est une date sacrée. Et, ou bien donc les autres événements douloureux que nous avons connus. Donc voilà un peu, moi c'est ce qui me rend un peu perplexe. Pourquoi encore l'utilité? Puisque Yadema, paix à son âme, n'est plus. Alors pourquoi tout ce folklore, que nous voyons donc du 24 janvier? Donc voilà, c'est ma question. Puisque, je l'ai dit à l'époque aussi, on a tenté donc de nous faire croire que Yadema était le seul survivant. Or, il y avait d'autres personnes qui étaient hein, dans ce détroit-là. Il y avait les Yaya Malou, il y avait Djafalo Alidou, il y avait le pasteur François Roux, il y avait du moins c'est l'épouse donc du pasteur Catherine qui était là. Donc il y avait tellement donc de personnes à l'époque dans ce décès. Et d'autres aussi ont réussi à dire qu'en réalité l'avion là était tombé parce que l'avion était surchargé. Voilà ce que, si vous lisez l'ouvrage donc de Siméon Okanse, vous verrez que c'est ce qu'il a réussi donc à démontrer dans son ouvrage. Donc il y avait tellement de choses qui divisaient déjà les Togolais. Alors pourquoi continuer avec cette date-là? Je reviens, c'est ma question. S'il faut le faire, pensons aussi à d'autres personnes. Pensons peut-être au père de l'indépendance du pays. Pensons à d'autres personnes qui sont mortes dans des situations les plus atroces, les plus terribles que nous avons connues au Togo pour le faire. Donc, voilà.
Non, c'est vrai que les 62 ans du Togo indépendant sont maillés par des événements, des dates, certaines des plus tristes, des plus tragiques. La preuve, il y a 30 ans jour pour jour, le 25 janvier 1993, un meeting populaire auquel l'opposition avait appelé à la place Fréau-Jardin, devenue depuis place Anantos, est terminé dans un carnage, dans un bain de sang. Nous y étions jeunes étudiants à l'époque. Mais Estelle, comme qui dirait, l'histoire d'un pays n'est jamais rectiligne, ce n'est jamais en ligne droite. Il y a des courbes, il y a des lignes brisées, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de pleurs. Mais il faut que le pays se surpasse pour en faire synthèse. Et c'est ça même qui forme et qui conforte le tissu national.
Oui, c'est ça. Et comme tu l'as décrit, oui, l'histoire d'un pays, c'est des hauts et des bas. Mais il faut que le présent se construise également sur la véracité des faits passés.
La vérité des faits historiques.
Des faits historiques, c'est un peu ça le tissu social. Donc, c'est l'occasion encore de s'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées le jour-là. Et souhaiter toujours beaucoup de courage aux membres de leur famille. Mais il ne faudrait pas que les célébrations se fassent de telle sorte pour qu'on puisse parler de deux poids, deux mesures. Donc, restaurons vraiment la vérité des choses pour une bonne évolution de toute la nation.
Voilà la vérité. Nous devrions avoir le courage de creuser fait pour dire ce qui s'est passé à telle date. Quels étaient les protagonistes, les acteurs, aussi bien les bons que les mauvais. Il faut avoir ce courage d'arriver à la vérité, parce que c'est la vérité qui va rassurer tout le monde à continuer la marche nationale de l'avant.
Oui, effectivement, c'est la vérité, parce que quand il n'y a pas la vérité, on va parler toujours de division lors des manifestations, de ces célébrations-là. Puisque quand ça se passe, Donc, on parlait par rapport à l'attentat de Sarakawa, d'un accident, d'autre part de l'attentat pour éliminer physiquement le général Yadema. Jusqu'à ce jour-là, les écrits un peu partout ne disent pas réellement ce qui s'est passé. Mm-hmm. Chacun prend pour son compte, chacun dit que, voilà, il raconte son histoire, quoi. Donc, il n'y a pas une vérité comme ça. Et par rapport au 25 janvier, les responsabilités ne sont pas
supprimées. 25 janvier 1993, parlant de Fréau Jardin,
les responsabilités ne sont pas supprimées parce que ce qui s'est passé le 25 janvier, c'est l'opposition, la CO2 qui avait appelé à manifester. Et en ce moment, c'était en présence des diplomates allemands et français, ouais, qui étaient là dans notre pays. On avait demandé aux gens de sortir avec des bougies et des fichus blancs, des foulards blancs pour les accueillir. Mm-hmm. Et finalement, le carnage a eu lieu. Qui a tué, qui n'a pas tué, qui a fait, parce que si on dit que les responsables de l'opposition du Code 2 étaient au courant de ce carnage,
ouais,
et ils n'ont pas arrêté l'hémorragie. Donc, est-ce qu'on a situé les responsabilités en ce moment-là? C'est pour cela qu'ils disent que c'est la vérité, la véracité des faits qui sont produits, qui va permettre aux gens de dire, voilà, aujourd'hui nous avons la vérité sur ces faits. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait une date historique célébrée chaque année, ou on laisse ça comme ça, on va graver ça, bien mémoriser quelque part? Donc, la vérité est la vérité, et puis les enquêtes, la responsabilité, qu'on fasse disparaître aussi l'impunité. Il y a trop de d'imbroglio par rapport même à la chose 13 janvier également qu'on est en train de dire, ouais, de célébrer. Il y a aussi des problèmes à ce niveau. La vérité n'est pas encore établie. Qui a tiré sur Sylvanus Olympio, l'on ne sait pas. Et tout ça là, ça forme un véritable problème qui cherche à
soutenir la vérité des faits historiques. Pour venir rapidement sur le 25 janvier 93, parce que j'y étais personnellement, c'est un meeting qui avait été appelé au Palais des Congrès. C'était pour accueillir les ministres allemands et français de la coopération. Mais les deux ministres avaient été reçus par le général Yadema à Pia. Ils ont été retenus pendant longtemps. Et pendant ce temps, l'opposition s'était vue contrainte de délocaliser le meeting du Palais des Congrès à la place Fréau Jardin. Mais le meeting n'aura jamais lieu. Les ministres français ne seront jamais venus parce qu'entre-temps, il y a eu le carnage. Mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? La vérité historique qui rassure tout le monde, on attend toujours. Mais Fabrice, ces dates sont assez nombreuses. 13 janvier 63, 24 janvier 74,
13 janvier 67.
13 janvier 67 aussi.
5 octobre
90. On peut y ajouter le 23 septembre 86. Nous en venons au 25 janvier 93. Il y a également le 5 mars 94.
3 décembre 91.
Toutes ces dates-là, tout en laissant le soin aux historiens de nous situer là-dessus, l'homme politique ou la femme politique doit avoir également la hauteur de faire en sorte que ces dates nous rassemblent plutôt que de continuer à nous diviser.
Oui, je crois que celle qui posait beaucoup plus de problèmes, c'était la date du 13 janvier. On en a débattu dans ce studio où, à une certaine époque, c'était un jour de fête pour une grande partie des Togolais, et pour une autre grande partie des Togolais, c'était un jour de deuil, puisque c'est une date qui consacre l'assassinat du premier président du Togo. Alors maintenant, les choses ont évolué quand même avec l'arrivée de Faure Gnassingbé, qui a compris quand même qu'il fallait laisser la fête de côté. J'avoue que ça a été une décision très difficile à faire appliquer, puisque les premières années, après la mort de Yadema, les premières années, 13 janvier a été toujours célébré avec ce défilé que vous connaissiez à l'époque. Mais au fur et à mesure, il a réussi quand même à enlever ça de la tête de ceux qui en faisaient de cette journée une journée de fête. Et le 13 janvier devrait être investi dans le patrimoine de la réconciliation. Mais aujourd'hui, la date revient, mais sous une autre forme. C'est beaucoup plus ceux qui n'étaient pas contents de la célébration du 13 janvier comme fête sous Yadema qui ramènent cette date pour reposer la question de l'assassinat du premier président de la République togolaise. Puisque quand on regarde la façon dont les choses se sont passées, il y avait une envie d'enterrer le 13 janvier, d'en faire une journée ordinaire, puisque ça rappelait de mauvais souvenirs à certains. Mais cette envie de rechercher la vérité derrière la mort du premier président a fait que aujourd'hui, c'est les partis politiques de l'opposition qui ressassent un peu cette célébration de la fête, pas la fête, mais cette commémoration de la date du 13 janvier, mais sous un autre angle où on a l'impression qu'il y a une certaine impunité qui entoure cette date parce qu'il y a eu mort d'homme et il n'y a pas eu quand même des comptes à rendre. Alors aujourd'hui, il y a eu plusieurs bouquins là-dessus. Les historiens ont écrit sur ce qui s'est passé. L'homme du 13 janvier, un gros point d'interrogation est toujours demeuré. Moi, j'ai parcouru le livre de Feu Atuté Agbobli, qui a fait un travail en même temps d'écrivain, d'historien et de journaliste, parce que il est allé rencontrer certains protagonistes, notamment Nyasinghe et Adema, qui vivaient. Et je crois que quand vous prenez son livre, Sylvanus Olympio, un destin tragique, la dernière phrase de ce livre-là, c'est Eyadema, il dit, c'est qui l'homme de 13 janvier? Et Eyadema lui dit d'aller le chercher. Et donc, ça, c'est, il y a beaucoup d'écrits, mais aujourd'hui, tout dernièrement, il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où on montre un blanc qui serait celui qui aurait tiré. Donc, ça fait beaucoup de polémiques, ou du moins de suppitations autour de qui a pu vraiment tuer Sylvanus Olympio. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je crois que les acteurs ont commencé par disparaître, par mourir, naturellement, puisque nul n'est immortel. Alors, qu'est-ce qu'on en fera? Je crois que c'est aujourd'hui la réflexion qu'il faut mener. Et maintenant, après le 13 janvier, il y a eu bien d'autres dates. Alors, parlant du 24 janvier, là aussi, pour certains, ça a l'air d'une légende. Effectivement, l'accident de Sarakawa, et à l'époque, c'est vrai qu'au lendemain, avec le tour que le président a vu les images,
le retour triomphal
avec le 2 février, qui est resté aussi une date dont un hôtel célèbre porte le nom, et tout cela. Et quand vous prenez l'accident de Sarakawa, dans l'histoire de l'aviation, c'est l'un des rares accidents où il y avait eu plus de survivants que de morts. C'est-à-dire, quand on prend l'histoire des crashs, parce que je crois, quand vous, au départ, effectivement, on croyait que c'est lui seul qui est sorti indemne avec quelques égratignures.
Oui.
C'est ce que la légende.
Légende politique
à l'époque. Oui,
à raconter. Mais après, on a vu qu'il y avait plein de gens à bord de l'appareil. Et quand vous allez sur le lieu où l'appareil a fait crash, vous sentez que l'appareil est presque reconstitué. On a l'impression que, je ne suis pas de l'aviation, mais c'est comme l'avion a raté son atterrissage. Et je crois savoir que ce sont les Blancs qui pilotaient.
Oui.
Alors, est-ce que c'est parce que les Blancs qui pilotaient? Bon, c'est ça. Mais ce qui est sûr, les enjeux économiques qu'il y avait à cette époque-là étaient réels.
Oui.
Ça, on peut pas nier. Il y avait quand même un bras de fer sur la question de la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB. Mais maintenant, est-ce que ça a un lien avec l'accident? Ça aussi, les gens ont écrit. Certains pensent que, en fait, l'histoire a été utilisée. D'autres pensent qu'effectivement, il y avait une envie de liquider le chef de l'État au point d'en faire des kamikazes, ceux qui pilotaient l'avion. Mais ce qui est sûr, ça reste aussi comme cela. Est-ce que c'était un accident, un simple accident, ou c'est un accident déguisé en attentat? Jusqu'aujourd'hui, les Togolais également n'ont pas encore accordé leur violence. Mais l'enjeu économique qui est derrière existe. Et moi, je crois qu'il faut évoluer dans les idées. On peut prendre cette date-là, au lieu de parler peut-être trop de l'accident, mais en faire une journée de patriotisme économique où on peut peut-être rechercher à voir que sont ceux qui sont patriotes économiquement parlant, puisqu'aujourd'hui on a un problème de transparence dans la gestion des biens publics et tout cela. Peut-être faire évoluer la date sous cet angle-là. Bon, plutôt que de rester toujours dans le schéma.
Merci. Comme quoi, les réflexions doivent continuer. L'essentiel, c'est que nous recherchons la vérité beaucoup plus pour être fiers d'être Togolais plutôt que cela nous divise. Allons-y maintenant à la problématique de l'enfant, notamment l'enfant défavorisé, hein, l'UNICEF et le Togo au chevet des enfants. Commençons par le confrère, le correcteur, qui en début de semaine, le lundi, écrivait à la page 3, quand l'UNICEF
invite le Togo de Faure Gnassingbé à revoir sa copie sociale. L'article évoquait le nouveau rapport publié le 17 janvier 2023 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, rapport au terme duquel on découvre que les enfants issus des ménages les plus pauvres sont ceux qui bénéficient le moins des fonds publics dédiés à l'éducation. Hein? Les enfants issus des ménages les plus pauvres sont ceux qui bénéficient le moins des fonds publics nationaux dédiés à l'éducation. Autre article, toujours de Le Correcteur, intitulé « Enfants de la rue, un fléau inquiétant ». Et pour Le Correcteur, ils sont plus de 10 000 aujourd'hui, ces enfants de la rue, visibles à tous les coins de rue névralgiques de la capitale. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants issus des familles rongées par la misère ambiante. Ces êtres fragiles qui finissent bien souvent comme des braqueurs, des bandits de grand chemin et qui sont source d'insécurité pour le Togo et pourquoi pas pour d'autres pays. Mais le sujet évolue avec cet autre article à la manchette de Libéral intitulé « Togo UNICEF vers un nouveau cadre de coopération ». Fabrice, un petit mot sur l'article.
Oui, je crois que c'est à l'issue d'un atelier quand même que l'UNICEF et le gouvernement togolais a organisé avec le ministère de la Planification pour faire un peu le bilan de la coopération entre l'UNICEF qui s'occupe de l'enfance dont vous parlez tout à l'heure et puis l'État togolais. Et donc, il y a un programme biennal qui finira en 2025 et c'est ce programme-là dont le jalon a été jeté donc à cette rencontre là qui s'est déroulée dans un grand hôtel de la capitale togolaise. Et donc il s'agit d'un programme quand même qui va prendre en compte la manière dont cette institution des Nations Unies compte apporter sa contribution par rapport à la défense des droits de l'enfant et également à son épanouissement.
Voilà, l'enfant, notamment l'enfant défavorisé, qui est également au cœur des actions du gouvernement, notamment par le projet, la cantine scolaire. Ces cantines qui ont été inaugurées un peu ou bien relancées en 2008, et dont parle le confrère Focus Info avec l'article « La belle réussite des cantines scolaires ». L'article dit que plus d'une décennie après le lancement des premières cantines à l'ère moderne du Togo, le programme a fait ses preuves et peut se targuer d'une belle réussite avec plus de 130 000 élèves concernés pour l'année scolaire 2021-2022. Et récemment, au Conseil des ministres, on a écouté une communication qui laisse entendre que le gouvernement prévoit d'étendre les cantines scolaires jusqu'à 213 784 élèves dans 1181 nouvelles écoles et avec, je crois, une dizaine de nouvelles écoles dans la région de la préfecture de Kpendial. L'objectif qui est d'atteindre 300 000 élèves à l'horizon 2025. Et Estelle, selon les rapports sur la cantine scolaire, on découvre que ces cantines ont un effet bénéfique de l'alimentation scolaire sur le taux de scolarisation des enfants. Ce sont les témoignages des élèves et des parents qui sont contenus dans les rapports parlent justement.
Oui, c'est bien ça. Je crois que c'est également sur ces bases que l'État veut en fait institutionnaliser les cantines scolaires depuis juin 2020. Le programme évolue maintenant sous une loi et que des dispositions sont prises relativement aux différents acteurs, au conditionnement, au stockage de ces différents produits-là pour protéger la santé de ces enfants. Et selon les informations, progressivement, l'État va laisser la gestion aux collectivités locales. Donc, attendons de voir. Quand il s'agit de la santé et de la sécurité des enfants, il n'y a pas de prêt pour cela.
Alors, il y a les cantines scolaires. À côté, il y a également l'autre projet, Scolassu, qui est censé donner une couverture sanitaire aux élèves en cas d'accident. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine polémique autour de la gestion effective de Scolassu. À côté, il y a également le programme OESU, qui doit prendre en compte les femmes enceintes, la petite enfance jusqu'à un certain âge. Là aussi, il y a quand même une certaine polémique. Mais à Bachisaka, on peut quand même y voir une certaine volonté du gouvernement, voire du Togo, de prendre en compte ce que nous appelons justement l'enfance, notamment l'enfance défavorisée.
Ouais, je pense que le rapport de l'UNICEF aussi devait en tenir compte, bien c'est fait avant que ces actions du gouvernement, ces projets du gouvernement ne soient mis en place. Parce que depuis quelque temps, quand le programme cantine scolaire a été mis en place, je pense que les enfants des parents les plus démunis sont pris en compte par le budget national dans le programme social du gouvernement. Et quand vous prenez les enfants et les témoignages que vous recevez au niveau des enseignants, au niveau des parents, ils sont très satisfaits de ce programme qui a fait qu'aujourd'hui la déscolarisation n'est plus de mise. Puisque quand l'enfant vient, il a un repas chaud, ce que le parent ne peut pas lui donner à la maison avant d'arriver. Donc ça fait qu'aujourd'hui le taux de scolarité a augmenté dans les régions les plus reculées, dans les campagnes les plus reculées, et amené aussi à ce que les enfants s'intéressent maintenant à la scolarité. Il n'y a plus de...
Les cantines sont en train de réduire la déperdition scolaire.
Voilà, la déperdition scolaire. Donc aujourd'hui, il faut saluer tous ces projets-là. Nous espérons que ça soit continu et pérenne, parce qu'un projet, s'il est mal géré, va finir avant même son terme. Donc il faudrait qu'on suive effectivement les gestionnaires de ces projets-là, School Assure qu'on a mis en place, qui est en train de faire des polémiques, on ne sait pas comment ça va se gérer, mais il faudrait que ceux-là qui sont chargés de la gestion de ces projets-là puissent être suivis et voir comment ça se gère. Parce que pour les cantines scolaires, le gouvernement est en train de dire qu'il cherche à augmenter le nombre.
Jusqu'à 300 000 enfants d'ici 2025.
Mais si les sous, les fonds qui sont mis dedans sont mal gérés, le projet du gouvernement, c'est une proposition, c'est un projet du gouvernement, si ça n'est pas bien géré, ça ne peut pas atteindre les 300 000 enfants que le gouvernement cherche à atteindre. Il faut aussi faire un suivi et un contrôle de tous ces projets, parce qu'on sait ce qui se passe derrière ces projets-là. Si ce n'est pas des gens qui vont dire que nous avons les moyens, au lieu de s'occuper des enfants, on va détourner ces fonds-là à d'autres fins, puis ça n'arrive pas à atteindre le projet, puis les enfants dont on cherche à sortir de la misère. Puisqu'on a parlé de ces enfants-là qui sont dans les rues, des enfants qui sont les plus pauvres, dont les parents n'arrivent pas à prendre en charge. Donc le gouvernement dit qu'il va prendre en charge, mais si tous ces projets-là ne sont pas bien suivis...
Mais Sylvain, je disais que ces projets pris comme ça, ils apparaissent quand même d'une certaine noblesse. Donner des repas chauds aux élèves, aux enfants dans les zones les plus défavorisées pour leur permettre de mieux étudier, donner une assurance aux enfants, aux élèves du Togo, School Assure, ou encore le programme Ouzou. Alors, on peut prendre le gouvernement à son propre jeu en lui demandant de faire en sorte que la gestion de ces différents programmes soit efficiente. Bien sûr, le gouvernement va en récolter les marrons, mais c'est toute la population togolaise qui en profitera.
Oui, moi je dis qu'on sent quand même une réelle volonté au niveau du gouvernement de bien faire les choses, c'est-à-dire déjà avec la gratuité des frais scolaires, donc au niveau du primaire.
On a oublié de souligner ça.
On parle également des repas chauds et tout.
Également donc, les examens officiels dont l'instruction est gratuite.
Oui, on sent quand même une certaine volonté de bien faire les choses. Maintenant, c'est au niveau de la gestion qu'on doit être beaucoup plus regardant. Et j'aurais quand même souhaité aujourd'hui, Dieu merci, nous avons... et les communes et autres, donc ça permettra de mieux faire le suivi quand même de tous ces projets. Et j'aurais quand même souhaité qu'il est temps quand même que le gouvernement ou le pouvoir central puisse passer la main à ces communes-là. Et comme ça, au niveau de la reddition des comptes, au niveau de la gestion, je saurais que ce serait beaucoup plus propre à ce qui concerne donc les gestionnaires donc de ce projet. Et vous l'avez dit, School Assure, on a eu quand même tellement donc décrit peu favorable donc concernant ce projet. Donc pourquoi je souhaite véritablement que maintenant que nous avons les communes dans les contrées les plus reculées du pays, maintenant, on peut avoir quand même moins meilleur conseiller et tout. Donc, si on peut donner quand même ce projet aux communes, je crois que ce serait bien quand même pour la survie du projet, la gestion. Et donc,
impliquer davantage les collectivités locales par les communes.
Oui, je crois qu'avec ça, ce serait mieux géré que le pouvoir central. Et que, ouais, au niveau même de la prise de décision, ce serait aussi beaucoup plus facile. Si c'est le pouvoir central qui doit décider avec toutes les tracasseries administratives que nous connaissons, mais si c'est les mairies, je crois que ça peut aller un peu plus vite en ce qui concerne donc ces projets-là. Donc, je le souhaite véritablement.
Cela nous amène au prochain sous-thème intitulé « Au contact et à l'écoute des populations ». Nous avons appris que, en marge de la commémoration du 24 janvier, hier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a eu des rencontres d'échange avec les directeurs régionaux des services déconcentrés des régions centrales de la Kara et des Savanes. Toujours dans ce sens, Focus Info publie un long dossier sur la décentralisation. Quel rapport entre élus locaux et citoyens? L'article dit « Quelle est la contribution de la décentralisation au développement local du point de vue des citoyens ?» Une enquête réalisée par Afrobaromètre au Togo qui révèle la situation de la collaboration entre élus locaux et citoyens. C'est un dossier assez long que je vous laisse découvrir dans les colonnes de Focus Info. Un peu dans le même ordre d'idée, Gazelle Info s'intéresse à ce qui a été annoncé comme opération de désengorgement des voies. C'est quelque chose qui serait venu du gouvernement et que les préfets, les maires devraient piloter. Là encore, l'information n'est pas très claire. C'est un peu chacun avec son interprétation. SL, Gazelle Info a approché un acteur de la société civile, Pascal Edo Agbouvé. Il vous donne ses analyses et sur le phénomène sur les opérations de désengorgement et fait également des propositions.
Oui, nous l'avons tous appris le 15 février 2023, c'est la date butoir qu'a donné le gouvernement.
Qu'aurait donné le gouvernement? Parce que là, on n'a pas toujours.
Si c'est le gouvernement ou bon, si c'est
disons
les
communes. Prenons-le un peu avec les pincettes. Mm-hmm. Qu'aurait donné le gouvernement pour, que les occupants illégaux des trottoirs libèrent les différents artères. Donc, nous avons approché, comme tu l'as dit, un expert en décentralisation qui analyse la situation, qui comprend réellement les différentes motivations du gouvernement, en ce sens que, avec l'occupation des toits, d'abord, la circulation est très difficile. Il y a parfois des risques d'accidents, de dérapage de voitures qui rentrent droit dans, au niveau de ces occupants-là. Et tout ce que ça peut entraîner également comme conséquence au niveau de l'État, même si ces petits commerçants entre griffes arrivaient à partir. Peut-être les gens se sont installés il n'y a pas longtemps et qu'on leur demande encore de partir. Les gens sont sous prêt. Mais il faut le dire également, tant que les rumeurs ont commencé, il faut déjà prendre les dispositions pour ne pas être surpris à la dernière minute, puisque c'est depuis décembre que les rumeurs ont commencé. Et il avance en proposant certaines alternatives à l'État de telle sorte que et l'État et ses occupants puissent tirer le meilleur profit de cette décision-là si elle venait à être appliquée. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est à découvrir quand même dans l'apparition du jour et qui se trouve naturellement dans les
questions. Gazelle Info, Fabrice, cette information a deux volets. D'un côté, on nous signale une réunion au cours de laquelle le ministère de l'administration territoriale aurait instruit les préfets et les maires de veiller à ce que les emprises des voies publiques soient désengorgées. De deux, là, c'est un communiqué. Disons un arrêté interministériel signé par le ministre des enseignements primaires et secondaires Kokoroko et son collègue Poupessi qui informe ceux qui occupent les abords des établissements scolaires de déguerpir avec un délai de 3 mois. C'était également à partir du mois de décembre. Donc il faut situer les deux informations dans leur contexte et maintenant on verra à partir du 15 février ou bien à partir de fin mars ce qui sera fait aux abords des écoles ou bien dans les emprises des voies publiques.
Oui, bon, c'est vrai que l'information n'est pas... Si ça a été fait au cours d'une réunion, donc ça voudrait dire que chaque commune prend ses dispositions pour régler le problème. Ou alors, est-ce que c'est l'État en général qui le règle? Parce qu'on sait qu'il y a un maire qui avait déjà tenté quelque chose et il a croisé un lever de bouclier et il a dû reculer. Mm-hmm. Alors maintenant, est-ce qu'il revient à chaque commune de prendre les dispositions pour que les voies soient désengorgées, comme on le dit, ou alors c'est une initiative globale qui va intéresser toutes les communes? Bon, on verra bien la date. Mais en ce qui concerne, je crois, pour les établissements, je crois qu'à ce niveau, c'est clair. C'est clair qu'il faut un cadre sain pour l'éducation. Mm-hmm. Et le ministre, là c'est encore un peu plus concret, le ministre a fait une démarche en direction de son collègue pour qu'un avertissement soit donné à tous ceux qui occupent ces lieux-là, parfois des bars qui cohabitent avec des écoles et tout ça, des kiosques de vente de boissons locales. Ça aussi, c'est des choses qui exposent nos élèves. Alors, donc, sur ce coup, bon, je crois que c'est clair et net au niveau des écoles. Mais pour ce qui est des voies désengorgées et tout cela, on attendra de voir si c'est chaque mairie qui le fera, mm-hmm. ou alors il y aura une autorité publique qui va gérer pratiquement toute la capitale de Lomé. Parce qu'au même moment, là, moi, je pose cette question parce que au même moment, il y a des maires qui ont pris sur eux la responsabilité d'ériger également des baraques sur les trottoirs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mm-hmm. Est-ce que tout le monde parle d'une même voix? Parce qu'à l'époque, lorsque ça s'est passé dans le Golfe 5, on a vu le tollé, c'est comme c'était le méchant. Alors, ça peut paraître également, si c'est la même chose, si ça ne se fait pas sur l'ensemble de la capitale au même moment, ça va poser problème, parce qu'on va trouver un maire zélé où on lui donnera l'exemple des autres communes où on ne fait rien. Mm-hmm. C'est là où je dis, est-ce que ça va être global ou c'est à chaque maire de voir comment... Parce que puisqu'on sait que, faute de beaucoup d'initiatives, c'est ça leur source de revenus également.
Parce que si les directives ne sont pas claires, on risque d'avoir certains maires qu'on qualifierait de zélés à côté d'autres maires qu'on taxerait de complaisants avec le phénomène. Ouais. Alors, à part Issaka, sur les voies publiques, il y a également une certaine polémique, hein. On attribue au ministre Malick Nachaba d'avoir dit sur un média que le désengorgement ne concernerait que
les voies publiques,
les grandes voies, voilà. Et que les petites rues latérales ne seraient pas concernées.
Non, je pense que il y a aussi certains ministres qui disent que c'est les encombrements sur les rues.
Est-ce que c'est toutes les rues du Grand Lomé?
Ça là, c'est un projet du gouvernement, hein. C'est le gouvernement qui a commencé, parce que nous avons, dès le départ, lorsque cette décision est sortie, cette réunion est sortie, nous avons
la réunion
avec les
organisée par le ministre d'État Boukessi. Ouais,
nous avons fait un article par rapport à ça pour situer les uns les autres. C'est après que le ministre Kokoroko et le ministre Boukessi ont signé un document,
un arrêté
par rapport aux encombrements. Aujourd'hui, toutes les mairies sont en train d'organiser des réunions avec les opérateurs économiques
qui occupent les emprises
de voies. Et on voit même des directions, la direction technique de chaque mairie se promener dans les marchés, dans les emprises publiques pour faire la sensibilisation et demander aux gens de se préparer à libérer la voie avant le 15 février prochain.
2023.
Mm-hmm. Donc, il y a des sensibilisations qui sont en train d'être faites. J'en ai vu les directions DST. Vous allez les voir, DST.
Dans quelle commune?
J'ai vu dans la commune Golfe 3.
Golfe 3.
Commune Golfe 2, Golfe 1. Mm-hmm. Commune Golfe 5 même, mm-hmm. qui a convoqué des réunions avec les opérateurs. Mm-hmm. Et que il leur explique que ce n'est pas l'initiative des maires, mais c'est un projet du gouvernement de désengorgement des voies publiques, des voies des emprises publiques.
Oui, donc, mais quelles voies? Est-ce que c'est toutes les voies ou bien certaines ne seraient pas concernées?
Je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi également, j'ai eu dire que le ministre Malick Nachaba est intervenu sur la radio des taxis FM, où il aurait puisque j'attends encore l'audio, on leur a dit également que c'est uniquement les voies publiques, en fait.
Les grandes voies.
Mm-hmm. Donc, voilà ce qui en rajoute un peu à la polémique, parce que puisque dans déjà Golf 5, on dit à tout le monde qu'il n'y aura plus de baraques, que ce soit même devant ta maison, même il n'y aura plus de baraques. Maintenant, il faudrait véritablement que le gouvernement commence à situer véritablement les populations pour qu'il n'y ait pas de zélés. Si c'est uniquement...
Ni de complaisants.
Mmh. Puisque je vois déjà au niveau donc du campus, il y a quelques baraques qui sont là, ou je ne sais pas, des kiosques qui sont là.
Apparemment posées par
une commune. Notamment, je crois que c'est Golf 3.
C'est la chambre de commerce qui a posé ça.
Ah, maintenant, quel sera donc le sort quand même de ces kiosques-là, s'il arrivait que... au niveau donc des Togolais lambda, on n'est plus là, on ne dit rien, vous verrez que ce sera deux poids, deux mesures. Donc véritablement, qu'on situe les Togolais sur cette affaire de Barak, parce qu'il y a bon nombre qui sont également dans la situation, qui paient les taxes et tout. Donc il faudrait également voir comment on peut gérer. Si on peut prolonger, pourquoi pas le délai, ça peut les arranger.
Oui. Parce que quand vous prenez les débits de boissons, il y a les sociétés SNB et Brasserie du Bénin qui ont mis les baraques,
les enseignes
qui occupent aussi les voies publiques.
Mm-hmm. Donc les enseignes débordent
pour prendre les emprises. Donc, lorsque on a invité les tenanciers de bar, ils disent que on leur parle d'enlever ça. Ils disent non, ce n'est pas à eux les choses.
c'est les brasseries.
Sociétés de boissons qui ont installé ça. Donc, il faut, puisque c'est des opérateurs économiques qui paient aussi les impôts, qui sont venus installer ça pour faire leur publicité, leur visibilité. Ouais. Donc,
Il y a tellement.
Il faudrait que
qu'on
prenne langue avec les sociétés de boissons
et savoir comment. Que le gouvernement soit clair, puisse préciser le moins possible
de confusion.
Je crois aussi qu'on peut aller progressivement, peut-être en restant dans la logique du ministre Natchaba. Il faut que, peut-être, là où l'État a mis les moyens pour faire les routes, pour bitumer les routes, ça, au moins, il faut que ce soit dégagé. Voilà. Mais là où l'État n'a pas encore fait ce qu'il devait faire, les fontainiers de Florence nous ont dit que la nature a horreur du vide.
Oui.
Et ça, les gens peuvent occuper en attendant que l'État vienne.
Oui, mais il faut quand même que la communication soit claire, précise, concise.
Parce que jusqu'à présent, nous-mêmes, nous avons quand même tellement de la peine.
Tout le monde sait quelle disposition.
Mais si il nous reste une, deux minutes, on termine par cet article de la Manchette intitulé « Révision de la charte des partis politiques, fin de la période transitoire ». Et la Manchette voit certains partis politiques qui risquent de disparaître de la scène prochainement, Sylvestre Béni.
Oui, vous savez, il y a quand même une charte, il y a la charte donc des partis politiques qui a été révisée le 24 mai 2022 et donc promulguée le 30 mai de la même année. Et donc, à la suite donc, de cette charte, il est donné dans les dispositions transitoires et finales, il est donné un an à chaque partie donc de se conformer aux nouvelles dispositions. Et donc dans la nouvelle disposition ou dans les nouvelles dispositions, il y a quand même, il faudrait avoir un siège en bonne et due forme avec des adresses. Vous savez que il y a des partis politiques au Togo, le siège surtout dans le sac du président. Il y a des partis politiques qui ont fait 20 ans et qui n'ont jamais fait de congrès. Or dans la disposition, il est dit que chaque parti doit faire un congrès. Voyez-vous, il est dit pas de convention nationale
dans
ni de
quel laps de temps.
C'est-à-dire, normalement, la loi est promulguée le 30 mai 2022. Donc, un an fini le 30 mai 2023.
Oui.
Donc, en réalité, tous ces partis-là, à partir donc de la promulgation de la loi, devaient déjà commencer à faire un congrès, se conformer aux dispositions, parce que ça finit le 30 mai 2023.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'ils doivent tenir un congrès, les partis doivent avoir... et justifier leur source de financement. Alors, si vous prenez la disposition, vous verrez, il y a tellement donc de choses qui le parti doit avoir une implantation presque nationale, les deux tiers de la préfecture et tout. Donc ça veut dire que il y a tellement donc de choses que les partis politiques doivent faire. La date, l'échéance est approche le 30 mai 2023. Donc on se pose tellement de questions. Parce que nous connaissons quand même des partis où le président est le militant, il est le sympathisant, il est le secrétaire général, il est tout. Donc ceux-là, naturellement, vont disparaître. vous conviendrez avec moi.
S'il n'arrive pas à se conformer aux dispositions.
Se conformer aussi.
Se conforme. Bon, d'accord.
Oui, Fabrice. C'est une loi qui concerne des partis qui sont déjà morts. En réalité, il y a des partis qui ont disparu depuis un bout de temps, qui n'exercent plus, qui ne font plus rien. Il y a des gens même qui ne se souviennent plus de la définition de leur parti. Pour eux, mais maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de participer aux élections, je crois qu'eux, ils doivent effectivement remettre en cause certaines choses. Parce qu'effectivement, on a des partis qui ont participé aux dernières élections, mais on n'a jamais vu de congrès.
Ouais.
Et on ne sait pas s'il existe vraiment.
Les gens organisent très souvent donc le conseil national, la convention nationale. Maintenant, ici, la loi parle de congrès.
De congrès.
Donc, oui.
Ceci expliquant peut-être cela. On annonce que le CAF va tenir son congrès courant.
En avril
prochain, ouais. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une date également qui est avancée pour l'UFC?
Parce que l'UFC, pas encore.
Ok, en tout cas...
En réalité, c'est-à-dire que tous ces partis-là, au moins, doivent tenir un congrès du fait pour se conformer à la loi.
Et la date butoir, c'est le 30 mai 2023.
C'est-à-dire que si nous prenons de la promulgation de la loi au journal officiel le 30 mai, normalement, l'échéance est le 30 mai 2023. Puisque c'est un an donné dans les dispositions transitoires pour se conformer.
C'est un assainissement général.
Oui. Ça permettra également donc au ministère de la décentralisation et tout d'avoir, comme ça on aura une liste au moins claire donc des partis politiques. Puisque je disais ici. Oui, je disais ici qu'il y a un parti qui est au Togo et qui est connu par l'État comme UPR, Union pour la République.
Oui.
Il y a ce parti-là qui existe. On cite parmi les 118 que nous avons.
Oui.
Or, ce parti est mort depuis.
C'est qui le président?
En tout cas, on le connaît. Merci, voilà. Les 12h03, nous allons marquer une pause, un clin d'œil à nos partenaires, puis nous renouons avec vous, auditrices, auditeurs. Et autour de moi, les 5 confrères qui sont disposés à écouter vos questions, vos commentaires. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet dont nous avons débattu. Premier auditeur déjà en ligne, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour mon patron.
Bonjour.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu, Patrick.
Merci, oui, Patrick.
Vous pouvez vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
D'accord. Pardon. Alors, monsieur, j'aimerais un peu revenir sur le problème de. Sur la polémique, disons-le comme ça, sur l'assassinat du père de l'indépendance et de son non-rapatriement du corps de Dagoué à Lomé. Vous savez, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La semaine dernière, je pense. Je ne sais pas si c'est M. Foussé ni bien l'autre, votre confrère, qui avait reçu un historien sur ce même podium qui nous a clarifié comment, à peu près comment les trucs sont passés le jour-là. Il a essayé d'analyser les choses et nous tous, nous avons eu à apprécier. Bon, si dans cette affaire, nous voulons faire trop de polémiques, c'est comme si nous voulons chercher des poux sur un crâne déjà rasé. Vous voyez, les deux fils des deux présidents se sont réconciliés. Ils ont fait le chemin ensemble. Je veux parler de Gilles Christ et de Faure. On n'a pas dit les arrière-fils. C'est les fils directs des deux présidents. Si les deux ne sont pas attendus pour le rapatriement ou bien pour discuter de ça, pour nous éclaircir de comment les trucs se sont passés, parce que c'est les deux fils des deux présidents qui sont en question. Si eux, ils n'ont pas pu nous éclaircir comment les trucs sont passés, nous, on peut beau parler, on peut beau dire, mais l'essentiel n'est pas là, selon moi. L'essentiel, c'est comment faire pour que nous réussissions dans notre pays. Eux, ils sont déjà morts. Les deux présidents, d'ailleurs, sont déjà morts. C'est vrai de connaître l'historique, comment les trucs se sont passés dans le pays, mais l'idéal serait mieux que comment nous allons faire pour avancer, comment nous allons faire pour réussir. Je pense que ça serait mieux que de faire de polémique sur l'assassinat, l'enterrement, tout ça là, du père de l'indépendance, du père de la nation. Et pour finir, j'aimerais dire un grand merci à M. Sylvestre, parce qu'il vient de conclure quelque chose déjà concernant le déguerpissement des routes là. Il a dit, si nous nous focalisons sur la déclaration de M. Natchaba, ça serait mieux. Concernant les grandes voies, si on commençait par les grandes voies, il serait mieux parce que quand nous allons commencer par les grandes voies, mais ceux qui occupent les petites voies verront que voilà, il y a un changement, que demain ou après-demain, ça sera notre tour. Ils vont commencer par réfléchir et d'un jour à l'autre, ils vont déguerpir.
Merci Patrick. Justement, ce que le gouvernement donne des instructions claires que ce soit bien simple à comprendre pour nous tous et il y aura moins de polémiques.
Allô?
Oui, bonjour.
Non, c'est tout. Monsieur Sall.
Ah, c'est pas fini?
Il reste deux mots.
Non, il y a d'autres aussi qui attendent dans la ligne, Patrick. Merci d'être. De laisser la place aussi à ceux qui. Ils sont partis? Ok, ils vont revenir. Oui, bonjour l'ami.
Bonjour.
Oui.
Oui, c'est Ali.
Ali.
J'espère que vous allez bien.
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Oui, concernant le 25 janvier.
Le 25 carnage, janvier de quelle année?
Oui. Le carnage. Allô, vous m'écoutez?
Oui.
Le carnage de Fréau Jardin dont vous parlez.
Oui.
Mais c'est clair, tout ce qui réfléchit, c'est que l'opposition ne peut pas ordonner à l'armée de venir faire carnage. C'est sûrement le régime qui a ordonné. Puisque dans ce temps-là, si le meeting-là a eu lieu, on va voir le vrai visage de la gouvernance de ce temps. Maintenant, on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'armée ne peut pas sortir et faire le carnage sans le commandement du premier responsable qui est le président. En dehors de ça, je ne sais pas pourquoi chaque fois on fait comme si l'opposition a une partie dans le carnage-là. Non, nous, l'opposition a voulu quoi ? Informer la population. Mais qui est venu tirer ? C'est toujours l'armée. Donc,
merci Ali. Je vous rappelais tantôt que j'étais sur les lieux, mais en tant que journaliste, nous posons le problème pour demander que la vérité soit le plus clair. Monsieur Ali, vous n'avez pas la science infuse sur ce qui s'est passé à tel jour de notre histoire. Un peu d'humilité. Laissons le soin à l'histoire de nous situer. Le suivant, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je salue vos invités.
C'est monsieur ?
C'est Mathieu.
Mathieu, oui.
Oui. S'il vous plaît, comme canal est d'une grande écoute, j'aimerais vous soumettre un constat que j'ai vécu personnellement l'autre fois, le lundi surpassé.
Oui.
À l'entrée de la ville de Kara venant du nord, au niveau de Hauteur.
Oui.
Un peu avant Hauteur. Et il y a des jeunes qui nous ont lancé des cailloux. Et ça a brisé le pare-brise de notre car.
Oui.
Et il me semble que ce n'est pas la première fois que ça se passe. C'est vraiment que les autorités sécuritaires de la ville de Kara pourront investiguer pour que ces choses ne se répètent plus.
La scène s'est passée vers quelle heure?
Ça s'est passé en pleine nuit, disons dans la nuit du dimanche. Le dimanche surpassé. Autour de 1 heure.
Oui.
Donc, 1 heure du lundi, quoi.
Et les jeunes, ils étaient cachés là, ils vous ont lancé des cailloux?
Oui, ils nous ont lancé des cailloux, ils se sont enfuis.
Ils se sont enfuis?
Oui.
Alors, est-ce que vous avez porté l'affaire devant la police ou bien une force publique de la ville de Kara?
Non, on n'a pas fait. Voilà pourquoi je voulais profiter de votre antenne pour lancer cet appel.
Merci, c'est bien. Mais le citoyen doit également user des voies qui lui sont offertes par le droit. Si quelque chose vous a dit comme ça, le chemin le plus court, c'est de saisir l'autorité publique, sécurité la plus proche, pour enquête à mener.
Voilà.
Pour les conseils également, éventuellement.
Merci bien.
Eh bien, et puis, de préférence, ne tardez pas trop dans la nuit. Oui, l'auditeur suivant. Ok, en attendant le. Oui, il est déjà en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Niamava.
Monsieur Niamava, nous vous écoutons.
Oui. Et nous saluons les mesures prises par nos dirigeants. C'est bien. C'est la dernière fois, il y a eu l'insécurité. On ne savait pas comment faire pour chasser les braqueurs. Mais on se demande, les conteneurs, les citoyens togolais ont acheté ça où? Chez qui? C'est eux qui ont importé les conteneurs. Quand ils achetaient, qui a adhéré? Vous allez voir qu'il y a aussi les moyens qui sont dans le gouvernement là-bas. Leurs femmes ont acheté aussi des conteneurs. Hein. Après, vous allez voir les conteneurs au bord de la route, on va vous dire qu'ils ont des agréments.
Monsieur Niamava, signalez-nous les femmes de quelle autorité a tel conteneur ou nous en parlerons avec preuve.
Oui, vous savez, la minorité pieuse, ils ont
des... Oui, est-ce que vous avez des noms sur les propriétaires de ces conteneurs?
Pardon?
Est-ce que vous avez les noms des propriétaires des conteneurs à problème?
Tous les conteneurs, si je dois recenser ça, là, je remplace les maires, tous les maires du Togo. Donc, je vous dis que vous allez constater par après qu'il y aura certains conteneurs. Les gens évoquent même les conteneurs installés par les maires déjà. On va vous dire que c'est par agrément qu'ils ont installé ça. Ben, les pauvres citoyens vont en pâtir.
L'ami Nyamambo, vous nous demandez, à nous journalistes, de prouver ce que nous vous disons. Un auditeur vient de dire que nous sommes dans une émission de grande écoute. Nous avons l'obligation d'avoir toutes les preuves de ce que nous disons pour conforter la confiance, l'estime dans l'émission. S'il vous plaît, M. Nyamavo. Sortons des généralités, allons sur des faits précis. C'est ce qui nous aidera à aller de l'avant. Merci, le suivant. Bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Voilà, moi c'est l'évangéliste Saint-Gobain. Bon, il y a un constat là, M. Sass. Bon, parce que vous ne laissez pas les intervenants parler, mais on dirait que vous êtes l'avocat du gouvernement, comment? On ne comprend pas. Parce que quand les gens interviennent, laissez-les parler, c'est bon. Est-ce que j'ai constaté, j'ai pas une question, quelque chose à ajouter. Je vous remercie.
L'ami Senghor, je suis heureux que ce soit vous qui le dites, vous qui êtes parmi les plus réguliers de cette émission, si nous sommes l'avocat d'X et de Y, nous laissons le soin à tout l'ensemble des auditeurs du Club La Presse, que nous respectons beaucoup de se situer eux-mêmes. Le suivant, bonjour. Allô? Il est en ligne? Allô? Il n'a pas le retour? Eh bien, oui, l'auditeur en ligne, bonjour.
Allô, bonjour, monsieur.
Oui.
C'est Corneille, je voudrais intervenir sur la radio.
Eh bien, vous y êtes?
Okay. Je pourrais parler?
Allez-y, nous vous écoutons.
Ok, bonjour monsieur Kadalem. Bon, monsieur Sass, moi c'est Corneille, j'appelle Davidi.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, bon, c'est juste pour intervenir par rapport à deux cas, Sibanis Olympio. Bon, non, pourquoi est-ce que jusqu'à présent il est difficile à ce qu'on puisse donner le nom de la personne qui a tiré sur lui? Et le second constat aussi que j'ai eu à faire, c'est que le plus souvent, lorsque vous parlez, faites référence à certaines chaînes, par exemple RFI, par exemple, vous appelez RFI. Mais lorsqu'il s'agit des chaînes du Togo, par exemple, bon, vous dites une chaîne consoeur. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est interdit, une loi qui est interdite à ce que vous donnez le nom de la chaîne nationale? Bon, voici ma question.
Cher ami, vous avez écouté le Club de la Presse hier. Nous avons nommément cité Radio Lomé, Radio la TVT, pour ce que ces médias, confrères et consoeurs font de bien ou bien à améliorer. Sinon, nous avons les meilleures relations confraternelles avec tous les médias ici du Togo ou d'ailleurs. Je vous en rassure. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Ah, et si?
Oui.
Il y a beaucoup d'écho autour de vous là-bas.
Je baisse la radio. Tu nous as manqué. J'espère qu'il n'y a rien de grave.
Non, non, non. J'étais allé juste me reposer un peu.
Jouir un peu, quoi. Mm. Voilà. Bon. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Mm-hmm. Pour Olympio aussi, quelqu'un avait dit que c'était lui, non? Hein, il n'a jamais démenti. C'est les autres qui parlent du blanc, tout le reste maintenant. Lui-même, il n'a jamais démenti avant de mourir.
C'est qui lui?
C'est lui qui s'est porté et garant de ce truc.
Oui.
Et puis, il en a profité jusqu'à présent, il y a 60 ans. Il en a profité de ce crime-là, quoi. Bon, maintenant, passons. Pour l'histoire de rapatrier son corps, c'est le même régime est là depuis qu'on laisse tomber. Et puis, vous avez parlé de beaucoup de choses. La nationalité a changé par l'UNOA qui nous a appauvris. La dépravation, les conteneurs à casser, les conteneurs, les fameux. Et maintenant, c'est les dirigeants qui vont en fabriquer pour nous les louer. Je crois que c'est ça qui va se passer.
Madame, ici, nous vous prions de bien nous suivre dans nos commentaires avant vos interventions pour ne pas créer des amalgames inutiles. Nous avons dit que la décision est partie du gouvernement
qui a instruit les autorités locales de désengorger les voies publiques. Et nous posons la question, est-ce que c'est toutes les voies du Grand Lomé ou bien les principales en attendant de passer après au secondaire?
Les autres.
Voilà.
Bon, mais il faut faire la part des choses. Hein. Il faut faire la part des choses, quoi. Et puis, depuis 90, vous suppléez au gouvernant. Hein. Et depuis 90, à la Baule, on demande les réformes démocratiques, la démocratie. Est-ce qu'ils vous ont dit quand est-ce qu'ils vont passer la main, ils vont pouvoir alterner pour qu'on rentre dans nos droits de réforme démocratique et de démocratie? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Vous les invitez qu'ils viennent nous l'expliquer, quoi. Voilà.
Merci, Madame Essi et les autres auditeurs.
Merci.
Vivement que vous, auditeurs, citoyens, vivement que vous soyez plus courageux que nous, les journalistes et le Togo gagneraient beaucoup. Ok, c'est fini. Chers amis, vous avez écouté nos charmants et très gentils auditeurs. Ok, un tour de table pour recueillir vos réactions. Abbas Issaka.
Non, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne peut pas leur répondre. Chacun a son opinion, puisque c'est ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de dire. Mais quant à ce qui dit qu'on ne donne pas la parole à l'auditeur de s'exprimer complètement. Le club de la presse, si ça ne pouvait pas donner la parole, on ne pouvait pas réserver ce temps d'antenne-là aux auditeurs pour qu'ils s'expriment. Donc il faudrait qu'on soit courtois les uns les autres. Nous sommes là à la radio, nous venons pour parler des faits qui sont là. Et on se pose des questions, on dit que ceci soit fait dans les normes. On n'est pas là pour soutenir qui que ce soit ici. Nous donnons aussi nos opinions. Ceux qui appellent donnent leurs opinions. Donc, ce n'est pas la peine de taxer que vous êtes avocat de tel ou tel. Donc, il faudrait que les gens nous comprennent bien.
Non, Abbas, nous comprenons. Vous savez, certaines personnes, ils ont tellement de frustration sur leur cœur qu'ils veulent nous prendre, nous journalistes, comme des oraux, comme des kamikazes, qui allons casser, réaliser leurs rêves de ceci et de cela, alors que nous ne sommes que des journalistes, que nos amis auditrices souffrent que. Nous ne sommes que des journalistes, nous ne leur donnons que des informations. Et s'ils sont plus courageux que nous, qu'ils y aillent par eux-mêmes. Un carton de fin d'émission en basse?
Non, bon, le carton, je vais dire que le carton, il est rouge toujours la même chose, parce que ça continue. Lorsqu'on donne des cartons, c'est souvent que les gens ne continuent pas à violer les feux rouges, les feux tricolores. Les accidents, ça se produit toujours par la faute de nous-mêmes. Quand on dit la route, tout là, c'est nous-mêmes qui nous tuons. Il faudrait que les gens fassent beaucoup attention pour qu'on puisse respecter. La route nous parle. Les panneaux qu'on met nous parlent. On dit la route parle. Mais si on ne veut pas écouter la route, c'est qu'on va avoir beaucoup de problèmes sur la route là.
Carton rouge à tous ceux qui violent les feux rouges. Gadiel Tchonyadji.
Bon, je vais aller, il n'y a pas de commentaire à faire, hein. Je vais aller directement au carton. C'est un carton jaune à ceux qui ont installé les lampadaires sur la route d'Aïdo Gomé. bon, c'est Zanguera ou bien Aïdo Gomé, c'est la même chose.
Oui.
Voilà, cette belle rue qui est tracée, mais les lampadaires font un jeu de guirlandes, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, on ne comprend pas. Sincèrement, ce qui se passe sur cette route-là, c'est comme si on n'a jamais mis des lampadaires dans la ville de Lomé. Et franchement, que ces lampadaires s'allument sur tout le long de la route, ça va beaucoup arranger la circulation. Parce que pendant la nuit, c'est terrible. Pendant la rue, la nuit plutôt, c'est terrible de circuler sur cette route-là.
Oui, on a des fois l'impression que c'est des décorations qu'ils ont mis dans la rue, voilà. Hein, aussi bien de Zanguera que de Ségbé. On a mis les poteaux, les fils et les lampadaires, mais ça ne s'allume pas. Et la nuit, c'est cause d'accident. Je ne sais pas si les autorités elles-mêmes passent là-bas pour admirer cet effet de décoration.
Pour les feux tricolores, c'est posé, mais on ne sait pas en quelle année ça va démarrer. Donc, sincèrement, on encourage ceux qui ont fait le travail de mettre cette route en fonction. Alors, ça va faciliter la circulation. Et ça, cela va éviter beaucoup d'accidents.
Merci. Si, Fabrice?
Oui, bon, moi je voudrais d'abord dire quelque chose. J'ai commencé le club de la presse, ça fait près d'une dizaine d'années. Et j'avoue que ça, c'est le jour où vous m'avez annoncé que vous ouvrez l'antenne, je faisais partie, peut-être si les auditeurs ne le savent pas, je faisais partie de ceux qui s'étaient farouchement opposés parce que je ne peux pas débattre avec des gens que je ne connais pas qui appellent juste pour raconter de n'importe quoi sur une antenne. Bon, Madame Messi voulait glisser sur le terrain du tribalisme. Généralement, quand je suis en face, je lui montre la face que j'ai. Mais bon, comme c'est à l'antenne, bon, je comprends. Elle et son parti politique, l'idéologie tribaliste, c'est pour ça que ça ne marche jamais pour eux et ça ne marchera jamais. Bon, comme c'est une auditrice, je la laisse de côté. Donc, je ne fais pas de débat avec les auditeurs. C'est parce qu'on a ouvert l'antenne, on dirait un groupe WhatsApp ou n'importe qui peut intervenir pour dire ce qu'il pense. Et donc, le travail d'animateur radio, c'est un métier qu'on apprend et qu'on exerce. Donc, ce n'est pas un auditeur qui vous apprend aujourd'hui, après le nombre d'années que vous avez passé en radio, à savoir comment on gère les auditeurs à l'antenne. La radio, moi j'en ai fait quelques années, vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Ce n'est pas un boulevard où quand on vient, bon, on vous décroche, on vous laisse parler, vous raconter tout ce que vous voulez, même si vous mentez. Même ça, même dans ce studio, quand nous-mêmes on se trompe, on ment, tu nous rappelles à l'ordre. C'est comme ça, un animateur doit être cultivé et être capable de gérer l'antenne. Et l'antenne, vous ouvrez, vous êtes là, et les auditeurs appellent, vous acquiescez, même quand ils mentent, vous n'êtes pas capable de leur dire « ceci n'est pas vrai, vous n'êtes plus un animateur ». Et c'est pour cela que votre émission est restée pendant longtemps et restera longtemps quand même un exemple à servir à tous ceux qui voudront un jour exercer cet exercice qui est l'animateur radio, surtout quand l'antenne est ouverte. Donc pour cela, je vous tire chapeau. Vous êtes un vrai animateur. N'en déplaise tout ce qu'on vous jettera comme caillou. C'est comme ça un animateur. On ne laisse pas les gens parler comme on veut. Il faut recadrer quand il faut recadrer. Et c'est comme ça on anime. S'il y a un animateur sur une radio qui laisse les gens débiter tout ce qu'ils veulent, il faut qu'ils retournent apprendre le métier. C'est ça l'animation radio. J'en ai fini.
La belle est. Afi, Estelle Koudjonou.
Bon, tout est déjà dit. Fabrice a marché sur ma langue, donc je n'en parle plus. Mais je voudrais quand même attirer l'attention de la CET. Il m'a été donné de constater qu'il y a certaines personnes qui sont déployées sur le terrain et qui rentrent dans les maisons, soi-disant qu'ils veulent relever les numéros de compteur. Et que c'est la CET qui les envoie. Et pour avoir une cartographie numérique des bases de données pour les prochaines années. On n'a pas eu de communication officielle venant de la CET. Si tel est le cas, que les prochaines heures ou les prochains jours, la CET prenne les dispositions possibles, qu'on soit vraiment situé, sinon à cette allure, on peut arriver à des altercations dans nos maisons, puisque je ne peux pas permettre qu'un individu comme ça débarque, soi-disant qu'il est...
Il arrive avec un badge de la CET.
Ils avaient des badges au cou. Mais sincèrement, je n'ai pas encore... C'est hier seulement que j'ai vécu ça. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Mais si c'est vrai que la CET prenne quand même les dispositions pour communiquer en amont, pour sensibiliser, ça va dans la même ligne droite que le recensement qui a été fait dernièrement. Il faut que les populations soient quand même informées en amont. C'est le moindre respect que la CET puisse témoigner quand même à la population.
Voilà une dame qui sait garder sa maison.
C'est important.
Sylvestre Cocou, Benny.
Non, écoutez, moi, j'ai pas tellement de choses à dire. Juste pour nos amis qui nous sollicitent parfois pour sur des sujets. C'est vrai que nos numéros sont partout. Parfois, des gens nous écrivent sur ça. Voilà, j'ai tel fait. On honore le fait. Mais beaucoup sont impatients. C'est-à-dire qu'ils attendent que déjà à la prochaine publication, vous puissiez mettre. Non, nous allons vérifier. Parfois. Quand ça traîne, on dit non, ou vous avez pris l'argent et tout ça. Bon, vous savez, des gens qui vous écrivent sur WhatsApp, ils vous disent des choses comme ça. Vous n'avez pas grand-chose à faire que de les bloquer, vous voyez. Donc, parfois, c'est... Comprenons-nous, c'est vrai. Il faudrait quand même nous dire un certain nombre de choses, mais attendez que nous puissions également vérifier les faits avant donc de les publier. Mais si vous nous dites quelque chose le vendredi et que vous attendez que déjà le mercredi, ça soit la une du journal, je suis désolé, quoi. Moi, je ne peux pas.
Merci. Voilà. Pour terminer, avant la presse, j'ai été enseignant et Fabrice sera d'accord avec moi que quand l'enseignant pose un sujet et qu'un élève est hors sujet, on lui met zéro. sans complaisance.
Oui, clair.
Quand l'élève est hors sujet, il est hors sujet. Et puis en football, vous avez beau être Ronaldo ou bien Messi, mais si vous retrouvez en hors-jeu, l'arbitre siffle et annule votre jeu et le jeu reprend. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.